Donc, dans ce cours qui est, s'attache au texte de théâtre, après les trois premiers cours qui étaient consacrés à une étude de cas, une pièce particulière, la vie du grand Don Quichotte, Antonio José da Silva, je voudrais, dans les trois cours qui viennent, en rappelant d'ailleurs qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine, donc les deux dernières séances auront lieu les 9 et 16 décembre. La même chose pour le séminaire de 4 heures de l'après-midi, il n'y a pas de séminaire la semaine prochaine, mais le 9 et 16 décembre, et puis aussi les deux premières semaines de janvier. Donc, dans ces trois dernières séances, aujourd'hui, puis le 9 et le 16 décembre, j'aimerais m'attacher à un des thèmes que j'avais mentionné comme l'un des plus importants pour cette réflexion dans la première séance et comme introduction, et qui était la relation entre la scène, le spectacle, la performance et la publication imprimée, l'édition et la lecture. Et le point de départ obligé pour une réflexion sur cette trajectoire de la scène à la page que j'essaierai de mener avec des exemples venant de trois contextes particuliers, c'est-à-dire aujourd'hui essentiellement l'Angleterre élisabéthaine, qui correspond non seulement au règne de la reine Élisabeth, mais aux deux premiers Stuarts jusqu'à la Révolution de 1642, ou puis aussi dans le contexte français, avec une attention particulière à Molière, ou dans le contexte espagnol de la Comédia. Cette réflexion sur la scène, de la trajectoire qui mène de la scène à la page doit commencer avec l'examen de ce qui est la réticence par rapport à la publication imprimée de textes qui sont écrits pour la représentation. Et ce lieu commun, ce topos que l'on rencontre dans de très nombreux préliminaires des éditions imprimées, particulièrement en Angleterre, les avis aux lecteurs, doit être compris à la fois comme une manière de justification de la publication, une forme de captatio benevolentia, une forme d'affirmation de la modestie de l'auteur, et en même temps compris aussi comme se liant à une conception même de ce qu'est un texte de théâtre. Alors pour commencer, je voudrais partir d'une série de textes que l'on rencontre dans les éditions imprimées d'un des auteurs élisabétains, John Marston, qui est un dramaturge né en 1576 et qui appartient à la même génération que d'autres dramaturges que nous rencontrerons, en particulier John Webster ou Ben Jonson. Il appartient aussi à la génération de John Ford. C'est un dramaturge qui a un très fort enracinement ou capital intellectuel et universitaire, puisqu'il licencié, bachelier à Cambridge, et ensuite avait fait des études dans une des écoles de droit, une des Inns of Court de Londres, une des plus fameuses Middle Temple. Dans un texte que j'avais cité rapidement, mais que là nous pouvons analyser de beaucoup plus près, émerge ce motif de la réticence à la publication et de la publication pourtant nécessaire. C'est un avis qu'il adresse au lecteur, to the reader, dans l'édition en 1604 d'une de ses pièces, The Malcontent, Le malcontent est la traduction qui a été donnée pour cette pièce dans le volume du théâtre élisabétain qui a été publié l'année dernière sous la direction de Lynn Cotigny, François Larocque et Jean-Marie Maguin, qui est en deux volumes à l'intérieur de la bibliothèque de la Pléiade. Et le texte, alors j'en prends la traduction et ensuite nous en aurons. La pièce raconte l'histoire de l'ancien duc de Gênes qui a été destitué de son pouvoir et qui revient comme observateur critique déguisées, cachées des mœurs et des pratiques qui sont celles de la cour dont il a été chassé. Et le personnage s'appelle Malevole, celui qui est mécontent de son sort et du coup qui a cette figure du prince déguisé, acerbe critique de la cour et du gouvernement. Et en 1604, il y a trois éditions de cette pièce, publiée par le même éditeur, William Apsley, et imprimée par le même imprimeur, Valentin Symes. Et avec, on va le voir, de fortes variantes entre ces éditions, mais un point commun qui est la présence, dès la première édition, in quarto, de cet avis au lecteur. Alors je lis la fin de cet avis au lecteur. Une chose m'afflige, de penser que des scènes écrites pour être dites soient par la force des choses publiées pour être lues, et qu'afin d'en amoindrir le mal, je commette moi-même la faute. Mais puisque si je ne le faisais pas, d'autres me feraient plus de mal, il faut bien accepter ce moins d'inconvénient. J'ai donc moi-même composé cette comédie, sachant qu'en mon absence forcée, je dois, dans une grande mesure, m'en remettre au jugement de l'imprimeur, mais je prie que l'on veuille bien m'excuser les quelques erreurs d'orthographe et que l'on me pardonne la forme inélégante que ce petit rien présente à la lecture au nom du plaisir qu'il vous a procuré lorsqu'il fut présenté sous forme d'action vivante. Alors on peut prendre ce texte en suivant les éléments qu'il met en place et en se référant évidemment aussi au texte original anglais, parce que tout d'abord, évidemment, on y rencontre cette figure rhétorique de la justification de la publication imprimée, qui à la fois est une manière de s'écarter, voire de trahir le genre théâtral qui est fait pour la scène, et dit le texte scenes invented merely to be spoken, donc pour être dit, proféré, projeté à l'oreille des spectateurs, mais en même temps aussi une rhétorique qui lie cette trahison du genre avec la nécessité de la publication, avec cette allusion que d'autres me feraient plus de mal, c'est-à-dire une allusion au fait que les publications, de nombreuses pièces sont faites sans aucun consentement de l'auteur, ou moi-même de la troupe qui était propriétaire du texte, et sont faites, comme on l'a évoqué, soit à partir de copies manuscrites, faites à partir rarement du manuscrit d'auteur, plus souvent du prompt book, le livre de régie qui sera organisé les représentations, ou bien encore une autre forme de la reconstruction mémorielle, quelqu'un assistant à une ou plusieurs représentations, mémorisant le plus possible du texte et ensuite le mettant au propre et le vendant à un libraire, imprimeur. Donc ces pratiques en quelque sorte, du texte dérobé, soit par la copie, soit par la mémoire, amène à ce constat que les éditions sont faites sans le contrôle de l'auteur et que donc elles pourraient être encore plus dommageables au texte, puisqu'elles seraient moins exactes. On peut d'ailleurs noter que si cette plainte ou cette observation est justifiée du point de vue du texte lui-même, elle ne correspond à aucune possibilité juridique, puisque dans le monde des 16e, 17e siècles, et particulièrement dans le monde de la Stachnos Company, la corporation des libraires et imprimeurs de Londres, la propriété sur un texte est tout à fait indépendante de l'origine de ce texte. Et quelle que soit la manière par laquelle le libraire ou l'imprimeur éditeur ont acquis ce texte, à partir du moment où ils le font enregistrer par la communauté, ils obtiennent ce qui jusqu'en 1704 est désigné comme « writing copy » et ils sont propriétaires du texte. Il n'y a donc aucun délit possible en rapport avec une origine dérobée du texte. Donc ça, c'est le point de départ, et l'on voit qu'ici, dans la perspective de Marston, cet élément crée non seulement l'écart entre le texte pour la scène et le texte sur les pages, mais il crée aussi ce second écart entre le texte établi par l'auteur pour l'édition et l'édition imprimée. Puisque l'on voit ici d'ailleurs que la traduction de « j'ai donc moi-même composé cette comédie », composé n'est pas tout à fait le mot qu'il conviendrait, parce que l'expression en anglais « to set forth », qui voulait dire qu'il a lui-même préparé le texte pour l'édition. Ce n'est pas la composition dramatique ou littéraire du texte dont il est question. Là, ce dont il est question, c'est l'établissement d'un texte pour l'édition imprimée, de façon à avoir un contrôle sur ce texte imprimé qui va le mettre à l'abri des textes dérobés qui, presque par nécessité, seraient publiés. Mais donc, du coup, un écart entre ce texte établi par l'auteur pour l'édition et, d'autre part, l'édition imprimée, dont on voit bien ici, et c'est un thème présent dans ces cours ou dans mes séminaires, qui est le fait que l'édition imprimée dépend très largement, pour le meilleur ou pour le pire, du travail de l'atelier. Et l'auteur, même s'il veut garder un contrôle sur la forme du texte, doit composer, si j'ose dire, avec le fait que la forme même de l'édition, ce qui est dit ici, la forme inélégante de l'édition, dans le texte anglais, c'est « unhandsome shape », c'est-à-dire le fait, par exemple, que les textes de théâtre sont édités assez rapidement, sans soin très particulier, dans le format du pamphlet, du in quarto, est une décision du libraire-éditeur ou de l'imprimeur. Et d'autre part, les erreurs qu'il pourra trouver dans l'orthographe, orthography, dans le texte, proviennent elles aussi du fait que les compositeurs, les ouvriers typographes, donnent une forme graphique et orthographique aux mots qui est la leur, soit par leur préférence, soit par les nécessités du travail de la composition. On voit donc que même contrôlé parce qu'il a été set forth par l'auteur, le texte est soumis dans l'atelier typographique aux décisions du maître imprimeur, du libraire-éditeur et des compositeurs, à la fois dans sa forme matérielle, les caractères, le format, le papier, et dans la matérialité du texte, c'est-à-dire les formes graphiques et orthographiques qui lui sont données. Un autre élément intéressant dans ce texte est la fin, lorsque Marston dit on pardonnera ces erreurs d'orthographe, on pardonnera cette forme inélégante, qui viennent d'ailleurs au fait que de son absence forcée. On est dans un monde où le contrôle d'un auteur sur son texte suppose sa présence au plus près de l'atelier. On n'est pas dans un monde où, comme jusqu'à une date récente avec le texte électronique, le contrôle de l'auteur peut être assuré par le fait qu'il corrige des épreuves, et parfois jusqu'à un excès démesuré, comme dans le cas de Balzac, qui se sert des épreuves pour, en fait, transformer, modifier, prolonger, réviser l'œuvre. Donc il y a là une distance possible, puisque les épreuves peuvent voyager entre l'atelier de l'imprimeur et le lieu de l'écriture. Mais au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on oublie parfois, par une projection rétrospective anachronique, que la seule manière de contrôler la matérialité du texte pour un auteur, c'est d'être présent dans l'atelier. Là, Marston évoque son enforced absence, son absence obligée, son absence forcée, et donc laisse, plus encore que dans d'autres cas, ces décisions du maître imprimeur ou des compositeurs, des typographes, l'emporter. Alors, il présente comme une forme de captatio benevolentiae le fait que même ce texte qui a des erreurs, qui est inélégant, ce petit rien présentera à la lecture, enfin, que vous pourrez excuser ces erreurs, parce que ce petit rien présente à la lecture ce que l'action vivante a présenté pendant le spectacle et qui a créé le plaisir que mentionne Mark Stone. On voit qu'à partir de ce moment-là, l'édition imprimée devient en quelque sorte un objet de mémoire, devient la trace matérielle du souvenir des spectateurs et des auditeurs présents lors d'une des représentations et ayant reçu plaisir de cette représentation. On voit qu'ici, il y a comme une métaphore qui n'est pas totalement aboutie, mais qui est présente dans ce texte. J'ai souvent parlé dans tes cours ou dans les séminaires de la métaphore qui fait que le livre est pensé ou décrit comme un corps humain, puisqu'il a une âme, le discours, et qu'il a un corps, la matérialité de l'objet. Ici, on voit que la métaphore se déplace sur l'idée que la représentation est celle qui donne à entendre et voir, et le texte anglais dit « the soul of lively action », l'âme d'une action vivante. Le traducteur a laissé de côté le mot « âme », et je pense qu'il a tort, sous forme d'action vivante, et la chute. Mais Marston emploie le terme de « soul of lively action », et donc l'âme, elle est dans l'action, dans la vie du texte à travers des comédiens sur la scène, et l'édition imprimée par différence est, elle, celle d'un corps plus inerte, d'un corps qui fait monument ou trace, mais qui n'est qu'une image tout à fait amputée et mutilée de ce qu'était la représentation. Et on voit que Marston, ici, introduit pour ce propos une métaphore entre l'âme de la représentation et le corps de l'édition imprimée, qui porte évidemment, comme en son commencement, l'accent sur le fait que la finalité, la fin du texte de théâtre est que son âme soit rendue perceptible par les comédiens sur la scène, dans un théâtre, devant des spectateurs. Et un mot qui peut être intéressant, c'est que ce petit rien, je reprends la dernière phrase, et que l'on pardonne la forme inélégante que ce petit rien présente à la lecture au nom du plaisir qu'il vous a procuré lorsqu'il fut représenté sous forme d'action vivante. Je pense qu'il faudrait donc donner avec son âme dans l'action vivante. Le mot « petit rien » traduit « trifle »,« bagatelle »,« petit rien », quelque chose de tout à fait secondaire. Et le mot renvoie évidemment à quelque chose d'important, qui est que dans la hiérarchie poétique des genres au XVIe et XVIIe siècle, l'œuvre de théâtre a un très faible statut de légitimité esthétique. On en a de multiples traces. Par exemple, lorsque Bodley construit ce qui est aujourd'hui la Bodleian Library à Oxford, les pièces de théâtre sont exclues des collections, comme s'il s'agissait de trifles, de petits riens, qui n'ont pas d'importance et qui ne méritent pas d'être mis à côté des grands genres de la poétique, les poèmes dans toute leur forme, par exemple. On a là un texte donc, qui est très riche, puisqu'il permet d'entrer dans cette double écart entre la scène et la page, et d'autre part, entre le texte établi par l'auteur et le texte imprimé dans l'atelier typographique, situant ce double écart à l'intérieur du faible degré de légitimité esthétique du texte de théâtre. Si l'on poursuit avec cette pièce et l'analyse, je pense qu'on peut être introduit à la pratique du théâtre élisabétain par l'analyse tout simplement de la page de titre, et en particulier la page de titre de la troisième édition de la même année 1604, mais qui est une édition, comme on va le voir, qui nous met en face d'un certain nombre de réalités importantes, parfois effacées, oubliées, de la pratique du théâtre dans le XVIIe siècle anglais. La page de titre, comme beaucoup de pages de titre, commence par le titre « The Malcontent », et ensuite on a ces trois mentions « Augmented by Marston »,« Augmenté par Marston »,« With the additions played by the King's Majesty's Servants », avec les additions représentées par les comédiens du roi, « Written by John Webster », écrite par John Webster. Et à le bas de la page, comme toujours, est consacré non seulement à une indication chronologique, 1604, mais aussi la double indication de qui a imprimé, souvent ici seulement sous forme d'initiale, V.S., Valentin Symes, pour qui, c'est-à-dire pour qui a payé l'édition, le libraire qui joue cette rôle d'éditeur, ici William Aspley, et le fait qu'on peut que le livre est vendu dans sa boutique au cimetière de Saint-Paul, qui est une indication, évidemment, non seulement pour des acheteurs qui rencontreraient un exemplaire et qui voudraient en acheter une copie, un autre exemplaire, mais aussi pour des libraires qui sont des détaillants et qui vont faire circuler l'édition vendue d'abord dans la boutique du libraire-éditeur, mais ensuite vendue par tout un réseau de plus petits libraires dans Londres. Alors, cette page de titre met en rapport avec une première réalité, c'est-à-dire la pluralité des attributions. Il y a deux noms, Marston, Webster, et la pluralité des états du texte, parce que la première édition, le premier quarto, ne portait que la mention « The Malcontent by John Marston » comme l'auteur du texte. Et ici, on voit deux séries d'additions sur un texte déjà là. Une première série qui aurait été des additions faites par le dramaturge auteur du texte, Marston, et des additions qui ont été faites pour la représentation par John Webster, donc un autre dramaturge. Ça ramènerait à une double définition de la collaboration. D'une part, la collaboration qui n'est pas le cas ici, qui est la collaboration au moment même de la composition du texte, et d'autre part, dans la synchronie de l'écriture du texte, et une collaboration qui est celle de la diachronie, c'est-à-dire des révisions, des reprises, des ajouts qui sont faits à un texte donné dans une première forme et qui est augmenté soit par son propre auteur, et il y a des augmentations de Marston, soit par un autre dramaturge, comme dans le cas ici de John Webster. Alors la réalité fondamentale, souvent oubliée, qui est derrière cette observation, c'est le fait que contre l'individualisation de l'auteur, qui est un motif fondamental d'une esthétique romantique, un génie singulier produit des œuvres originales, la pratique de l'écriture en collaboration est très fréquente au XVIe, XVIIe siècle, particulièrement pour le théâtre, on pourrait peut-être dire particulièrement pour l'Angleterre. Un cas très parlant est un journal tenu par un entrepreneur de théâtre, c'était un homme, Philip Henslow, qui non seulement possédait certains théâtres, d'abord The Rose, après The Fortune, mais aussi pouvait commanditer des pièces pour des théâtres, des troupes, pour des théâtres dont il n'était pas le propriétaire. Et entre 1590 et 1609, il a tenu presque jour à jour le livre de compte des paiements qu'il faisait aux dramaturges à qui il avait demandé d'écrire des pièces. Et on a 282 pièces mentionnées pour ces 20 ans. Deux tiers sont écrites en collaboration, c'est-à-dire par au moins deux auteurs. Au moins deux auteurs sont payés pour la même pièce, et souvent plus, 3, 4, 5. Et on retrouvera certaines de ces figures d'auteurs qui sont particulièrement inscrites dans ce paradigme de la collaboration. C'est par exemple le cas de Dacre. Il est payé pour 45 pièces dans le registre de Henslow, 31 sont des collaborations, et sur ces 31, 18 sont avec au moins deux auteurs, ce qui fait que la pièce en a déjà au moins trois, puisqu'il y a les deux auteurs et Decker. Et d'autre part, 5 sont des textes déjà là, auxquels il collabore, mais dans la durée, c'est-à-dire en les révisant, transformant ou augmentant. On a donc sur 45 pièces, 36 qui sont, d'une manière ou d'une autre, des présences de Decker comme collaborateur à une œuvre écrite collectivement dans la synchronie ou dans la diachronie. Thomas Heywood, 11 pièces présentes, payées par Henslow, et 7 sont des collaborations, 6 dans la composition même du texte et une pour une révision d'un texte déjà là. Donc il y a une première réalité fondamentale qui, évidemment, non seulement est en contradiction avec ce que nous entendons en général par histoire de la littérature, qui singularise des auteurs et leur attribue des œuvres, et qui est aussi en contradiction avec les pratiques mêmes du temps, puisque lorsque vous êtes face aux éditions imprimées de certaines de ces pièces, elles ne traduisent pas l'état de la collaboration, comme si la logique du marché éditorial, dès le XVIIe siècle, impliquait à attribuer à un seul nom, ou à deux noms, ou à pas de nom du tout, la pièce, mais non pas d'exhiber sur les pages de titre ses collaborations à 3, 4 ou 5 auteurs. Donc il y a une racine ancienne dans la logique de l'édition à ce qui est un fait dominant de la logique esthétique de l'histoire de la littérature telle qu'elle se construit avec ses catégories les plus immédiates, individualité, singularité, originalité, à partir du milieu du XVIIIe siècle. La deuxième réalité à laquelle nous confronte cette page de titre de The Malcontent de Marston en 1604, troisième quarto, c'est le fait qu'elle mentionne, comme beaucoup d'autres, la compagnie, la troupe qui a représenté la pièce « Played by the King's Majesty's Servant ». King's Majesty's Servants désigne la troupe des comédiens du roi, qui était l'ancienne troupe du Lord Chamberlain, mais qui devient troupe du roi en 1603. C'est la troupe dans laquelle Shakespeare était un des comédiens, un des propriétaires, et pour laquelle il a écrit la totalité de ses œuvres. Le mot « servants » est important puisque dans ce monde-là, le statut non seulement du théâtre comme « littérature » entre guillemets est bas, mais le statut des comédiens est encore plus dénué de légitimité sociale. Et donc, ils sont identifiés à des serviteurs, soit du roi, soit de la reine, soit d'une maison aristocratique. Et un des traits qui caractérise cette condition domestique des comédiens, c'est qu'on leur remet chaque année une livrée, un habit qui est celui des serviteurs ou des domestiques d'une maison princière ou d'une maison royale. Donc les King's Majesty's Servants, c'est la troupe de Shakespeare, c'est la troupe du roi. Mais le fait important, c'est que cette pièce a d'abord été jouée par une autre troupe, qui était la compagnie des Children of the Chapel Royal, c'est-à-dire les enfants de la chapelle royale, qui était celle de la reine. On traduit souvent les enfants de la compagnie des menus plaisirs de la reine, et qui, elle, jouait, non pas comme on peut le supposer ici, la pièce jouée par les comédiens du roi dans le théâtre du Globe, mais jouait dans le théâtre des Blackfriars, c'est-à-dire des frères noirs, un théâtre qui a occupé un bâtiment, un couvent, qui était celui des Dominicains, des frères noirs, sécularisés, comme vous le savez, avec la réforme de Henri VIII, à partir de 1538, donc devenu une propriété privée, louée pour des représentations de théâtre, et à partir de 1597, pour des représentations faites par ces troupes d'enfants. Il y en a plusieurs, mais celle-ci est une des plus visibles, renommées, c'est-à-dire les enfants de la chapelle royale. Ce qui est intéressant, c'est que les King's Men, qu'on a ici, les King's Majesty's Servants vont récupérer en 1608 ce théâtre des Blackfriars. Mais durant la période où on est, 1604, il y a une dualité entre les lieux théâtraux, et c'est une manière pour nous d'entrer dans une question fondamentale qui est le lieu où se donne la représentation de théâtre. Et dans le cas anglais du XVIIe siècle, il ne peut pas y avoir une opposition plus marquée que celle que cette pièce donne à voir, qui est entre ce que l'on appelle des public amphitheaters, c'est-à-dire les théâtres comme le Globe, et d'autre part ce que l'on appelle les private houses, les théâtres privés, mais qui n'ont rien de privé au sens, comme on dirait aujourd'hui, théâtre public subventionné par l'État et ou par les collectivités, et théâtre privé qui vide ses propres revenus. Le mot ne désigne pas du tout une question du financement des représentations. Il oppose les grands espaces des théâtres à ciel ouvert, qui sont, comme le Globe, ceux qui accueillent des publics considérables, 2-3 000 personnes, avec les théâtres dits privés et qui sont des théâtres fermés, qui sont avec un nombre de spectateurs beaucoup plus réduit et dont les prix d'entrée sont beaucoup plus élevés. Et donc l'opposition, elle structure l'espace théâtral à Londres au début du XVIIe siècle, puisque à partir de 1576, se sont multipliés dans les périphéries et surtout sur la rive sud de la Tamise, the Bankside, des théâtres qui, à partir du premier, qui s'appelait the Theatre, ont cette structure, c'est-à-dire à ciel ouvert, avec une aire où les spectateurs sont debout, la majorité, ce qu'on appelle donc du coup les groundlings, ceux qui sont debout sur leurs jambes, sur le yard, ou sur cette aire dans laquelle se masse le parterre, et d'autre part, où d'autres spectateurs qui payent des prix d'entrée plus élevés et qui appartiennent à des conditions sociales plus hautes peuvent être sur les galeries qui entourent l'aire hexagonale du théâtre ou même sur des loges. Et la scène s'avance au milieu de cette aire hexagonale avec un ciel, c'est-à-dire elle est protégée par un ciel qui a d'ailleurs tout un ensemble de décorations dont la signification symbolique est forte, ou parfois même une signification telle que Francis Yates avait voulu suggérer qu'il y avait une structure de art de la mémoire. Il y a aussi une trappe qui permet des effets de scénique, d'arrivée de personnages des enfers ou des fantômes. Et il y a sur le mur du fond, puisque l'hexagone est fermé par un mur au fond, une sorte de galerie qui permet aussi des jeux de scène lorsqu'il y aurait comme un dialogue entre des personnages sur la scène qui est au milieu de l'air où se trouvent massés les spectateurs du parterre, les groundlings, et d'autre part des personnages qui leur parleraient d'en haut, qui leur parleraient d'ailleurs, mis sur cette galerie occupée par des comédiens ou occupée par les musiciens. Et c'est ce modèle-là qui essaime à partir de 1576 et plus encore à partir de 1596, lorsqu'une interdiction formelle d'ouvrir ce type de théâtre dans la ville elle-même par crainte de désordre ou de troubles. Beaucoup des voisins ou des riverains des théâtres qui s'étaient installés dans la ville elle-même ont porté plainte. Donc il y a une interdiction municipale. Tous les théâtres doivent être installés à la périphérie, un peu au nord, mais surtout au sud. Au nord, on a le Theatre, 1576, le Curtain, 1577, the Fortune, 1600. Et au sud, dans le quartier de Southwark, sur le Bankside, on a le Théâtre de la Rose en 1587, le Théâtre du Swan, du Cygne en 1595, et le Globe, ouvert en 1599. On peut avoir une idée de ce qu'étaient les représentations à travers quelques récits de voyageurs qui sont arrivés à Londres et qui ont assisté à une représentation, puisque l'on voit qu'à partir de 1600, vous avez au moins 6 théâtres qui jouent en concurrence dans la ville, une offre dramaturgique considérable, ce qui est un des traits d'ailleurs qui peut expliquer la richesse du répertoire élisabétain qui doit alimenter ces représentations quotidiennes pour un nombre considérable de scènes. Et ce qui peut expliquer aussi, contre ce que disait Marston, c'est-à-dire que presque nécessairement son texte pourrait être dérobé et publié, que, j'y reviendrai, une grande majorité des textes de théâtre produits pour ce rythme très important et très dense des représentations n'ont jamais été publiés. On estime soit à 20% le pourcentage de textes publiés, ça c'est l'estimation la plus sévère, et une estimation peut-être plus raisonnable, du tiers des textes dont on connaît un titre qui ont fait l'objet d'une publication imprimée. Alors parmi les textes très souvent cités de voyageurs, il y en a deux. L'un qui est un voyageur hollandais qui s'appelle De Witt et qui est toujours cité dans la bibliographie sur le théâtre élisabétain parce qu'il a fait un dessin d'un des théâtres qui est sans doute le théâtre du Swan. Et c'est la seule représentation imagée que l'on ait de cette structure dont je parlais, que l'arène ou l'air, la scène qui s'avance, le ciel, c'est-à-dire le baldaquin qui protège la scène, la galerie du fond. Et il décrit De Witt, en même temps qu'il dessine, cette situation, donc c'est 1596. Il y a 4 amphithéâtres à Londres, d'une beauté notable, qui portent les noms correspondants à leurs enseignes respectives. Dans chacun d'entre eux, on joue une pièce différente, tous les jours, pour le bénéfice du populaire. Les deux plus magnifiques se situent au sud, au-delà de la Tamise, et comme l'annoncent les enseignes qui y sont suspendues, s'appellent la Rose et le Cygne, the Rose and the Swan. De tous les théâtres, cependant, le plus grand, le plus magnifique, est celui qui a pour enseigne un cygne, et que, dans la langue du pays, on appelle le théâtre du Cygne, car il offre place à 3000 personnes, et est construit à grand renfort de rognons de silex, dont la Grande-Bretagne a de prodigieuses réserves, étayé par des colonnes de bois si excellemment peintes pour imiter le marbre que le regard le mieux exercé peut s'y tromper. Parce que sa forme rappelle celle d'un édifice romain, j'en ai fait un croquis, par exemple, dans l'édition du théâtre élisabétain dans la Pléiade, vous avez la reproduction de ce croquis. Mais des traits importants, 3000 personnes, et le bénéfice du populaire, donc nécessairement avec 3000 personnes, une composition sociale du public qui est ouverte à des milieux, des artisans, des boutiquiers, des compagnons dans la ville de Londres, et le fait de... On a à ce moment-là 4 théâtres, puisqu'on est en 1596, s'y ajouteront le Globe et The Fortune, nécessairement une production dramaturgique qui doit alimenter les représentations de ces nombreuses scènes. Un autre témoignage est donné par un étudiant suisse, Thomas Platter, qui lui aussi va à Londres trois ans plus tard, 1599, et qui assiste à une représentation et en décrit le dispositif de cette manière. Donc, il est à Londres entre le 18 septembre et le 20 octobre 1599. Le 21 septembre, après le déjeuner, vers 2 heures, je passais avec mes compagnons sur l'autre rive du fleuve, donc il va au sud, et dans le bâtiment au toit de chaume, vit la tragédie du premier empereur Jules César, jouée de manière très plaisante par environ une quinzaine d'acteurs. La pièce finie, ils dansèrent ensemble admirablement, avec une grâce merveilleuse, comme c'est leur coutume, 2 dans chaque groupe habillés en hommes et 2 en femmes. Donc on voit d'abord la représentation a lieu l'après-midi, donc à 2 heures, en pleine lumière, ce qui pose la question, évidemment, de tout ce qui ensuite va être représenté comme des scènes de l'intimité ou de l'obscurité, qui, au XVIIe siècle, sont des scènes en pleine lumière du jour. Un autre trait, c'est que là, il est au Globe, et il voit sans doute le Jules César de Shakespeare, une quinzaine d'acteurs. Si je me souviens bien, il y a plus de rôles que de 15 acteurs, et donc une habitude importante dans le théâtre élisabétain, c'est le doubling, c'est-à-dire des acteurs jouent plusieurs rôles, et ce qui est une des contraintes sur l'écriture de la pièce. C'est-à-dire que le dramaturge doit penser à la possibilité, en fonction de la troupe pour laquelle il écrit, et donc du coup, de ne pas créer que des personnages qui sont joués par le même acteur se trouvent en même temps sur la scène. Il y a donc des contraintes, c'est une autre manière de briser avec l'illusion du jaillissement romantique de la création. Il y a des contraintes absolument matérielles qui opèrent sur l'écriture de la fiction dramaturgique. Et l'on voit aussi que, après une pièce qui ne passe pas pour une comédie, on passe brutalement, après la représentation, au fait qu'il y a une danse qui est faite par les acteurs, évidemment, comme tout le monde le sait, hommes et femmes, les rôles de femmes étant tenus, évidemment, par des hommes jusqu'à la Révolution anglaise. Ce n'est qu'avec la Restauration qu'en Angleterre, à partir de 1660, les femmes deviennent actrices des rôles féminins. La seule exception, ce serait dans Shakespeare in Love, mais je ne suis pas certain que la réalité historique derrière le film soit absolue. Alors, Plater continue. Ainsi, chaque jour à 2 heures de l'après-midi, 2 et quelquefois 3 pièces sont jouées en différents endroits de la ville de Londres. Elles rivalisent entre elles et les meilleures ont le plus de spectateurs. Les théâtres sont construits de telle sorte que les acteurs jouent sur une plateforme surélevée et tout le monde voit bien. Il y a cependant diverses galeries et place où l'on est mieux et plus confortablement assis, mais cela coûte davantage. Ainsi, debout au parterre, on ne paye qu'un penny anglais. Mais si vous voulez être assis, vous franchissez une autre porte en payant un autre penny. Si même vous voulez être assis sur un coussin, aux meilleures places, où non seulement vous voyez bien, mais où l'on vous voit bien, alors vous payez encore un autre penny à une autre porte. Quand il y a une pause dans la pièce, on fait circuler nourriture et boissons, si bien que vous pouvez acheter de quoi vous restaurer. Les acteurs portent des costumes très coûteux et très beaux, car c'est la coutume en Angleterre qu'à la mort des grands seigneurs et chevaliers, leurs vêtements quasiment les plus beaux soient donnés à leurs domestiques. Mais comme il ne convient pas que ceux-ci les portent, ils les vendent aux acteurs à bas prix. C'est un autre trait qui a souvent été, qui a été signalé avec beaucoup d'importance dans un livre de Anne Rosalind Jones et Peter Stalibras, que certains ont entendu l'année dernière au collège. C'est le fait qu'il y a une circularité des vêtements. On voit ici que les vêtements aristocratiques, mais portés peu, mais portés par des aristocrates, sont ensuite donnés à leurs domestiques, et que ceci soit parce qu'il y a un désaccord entre leurs conditions et le vêtement, ou bien parce qu'ils ont besoin d'argent et vont donc vendre à des revendeurs ces vêtements, les troupes de théâtre s'approvisionnent en costumes de scène chez ces revendeurs d'habits aristocratiques cédés par des domestiques. Et donc, du coup, ces vêtements portés sur la scène par des aristocrates de fiction, l'avaient été auparavant par de véritables membres de la gentry ou de la nobility ou de l'aristocratie. Donc on a une circulation, on voit aussi que dans le théâtre du Globe, il y a cette hiérarchie des places, le parterre, on est debout, que les galeries, on est assis, mais sur des bancs de bois, et puis des lieux qui sont peut-être presque des loges dans lesquelles il y a des coussins et sur lesquels peuvent s'asseoir ceux qui non seulement veulent voir, mais veulent être vus. On a donc là un monde théâtral où l'on voit que la structure même du lieu impose un certain nombre de conditions à la représentation, et en particulier un thème qu'on va retrouver, qui est la tension entre l'écoute et lecture, c'est-à-dire que cette structure de théâtre donne un primat à ce qui est the play, la pièce qui s'adresse à l'œil et à l'écoute, mais évidemment avec des conditions d'écoute, 3000 personnes dans une arène sans moyen mécanique de reproduction de la voix, créent sans doute des problèmes d'une audition fine et précise du texte dit. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, je pense, cette présence dans le répertoire élisabétain de parties ou de fragments dans les pièces qui ne sont pas dialogués. Non seulement il y a bien sûr la présence de la musique, la présence, comme on l'a vu ici, de la danse, de la musique qui peut servir d'intermède à l'intérieur des représentations, même si, comme je vais y venir, ces intermèdes sont moins nombreux et moins présents que dans le théâtre du private halls, les théâtres privés fermés. Et d'autre part, il y a cette présence dans les pièces, y compris shakespeariennes, de ce que l'on appelle dumb show, c'est-à-dire des représentations muettes, des pantomimes, qui ont des rôles différents dans les pièces. Dès la première pièce, Gorboduc de 1576, qui est comme fondatrice du théâtre anglais, il y a la présence d'un dumb show, et qui ont pour fonction parfois de montrer ce qui va arriver. Un des exemples les plus spectaculaires, c'est lorsque les comédiens A.L. Skinner dans Hamlet représentent la pièce, le meurtre de Gonzague, à laquelle Hamlet a ajouté des lignes de façon qu'il a espéré que Claudius se dévoile, choqué par le fait de voir dans cette pièce ce qui a été, qui est en quelque sorte un double de son propre histoire, le meurtre de son frère, Hamlet le père, et les épousailles avec sa veuve, Gertrude. Ou bien, comme on le voit, je l'utiliserai peut-être dans la Spanish Tragedy de Thomas Kyd, l'utilisation du dumb show comme un théâtre dans le théâtre. Et donc, il y a des parties de pantomime qui sont présentes, y compris dans les pièces qui appartiennent au répertoire qui va devenir le plus canonique. Et on peut aussi penser que ces conditions de la représentation qui porte accent sur ce que l'on voit, au moins autant, sinon plus, que ce que l'on peut entendre, explique aussi ce qu'on a pu appeler une esthétique baroque de la cruauté et qui fait que les pièces élisabéthaines ne sont pas économes pour montrer sur la scène d'horribles cruautés, assassinats, tortures, suicides. Le Spanish Tragedy de Thomas Kyd de 1592, sur la scène, il y a 6 meurtres et 3 suicides. Dans La Duchesse d'Amalfi de Webster en 1623, l'acte 4 est largement voué à une scène horrible de torture soufferte par la duchesse d'Amalfi, infligée par son frère jumeau, Ferdinand, et par un des sbires ou espions de celui-ci, Bozzola, et qui met en scène le fait qu'on fait toucher à la duchesse la main d'un cadavre, ensuite qu'on lui présente des effigies de cire de son mari et de ses enfants morts, et ensuite qu'elle est plongée au milieu d'une sorte de nef ou de mascarade des fous. Il y a donc une théâtralité aussi. Titus Andronicus, et que une des premières pièces de Shakespeare, c'est aussi une illustration de cette présence montrée, exhibée de la cruauté, la langue arrachée à Lavinia, un des éléments de cette pièce, ou à la fin, reprenant évidemment le répertoire de Sénèque, le fait de faire manger à la reine des Goths sous forme de pâté ses propres enfants qui ont été dépecés et cuits. Donc il y a là une esthétique qui s'explique en partie par la condition de représentation sur sur la scène. Et un dernier thème sur lequel je reviendrai, on a vu que les spectacles commençaient vers 14 heures et la durée, un thème important pour le rapport entre la scène et la page, la durée est en général annoncée dans un certain nombre de pièces, par exemple shakespearienne, comme une durée d'un spectacle de 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est presque une formule qui est répétée, les 2 heures de la représentation. Alors face à ces lieux théâtraux, il y a d'autres lieux de théâtre, certains qui ont de l'importance, qui en ont eu dans les cours que j'avais consacrés à Cardenio, c'est-à-dire la cour, Whitehall, le palais royal, et aussi d'autres palais, du roi ou de la reine, comme Greenwich. Il y a aussi les... Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la cour, on peut avoir l'importance d'un genre qui s'appelle « the mask », et qui est un spectacle de danse, de chant, dans des décors somptueux, des masques de Ben Jonson dus à Inigo Jones sont les plus emblématiques, et où parfois, comme on le verra à la cour de France, que le roi ou la reine peuvent eux-mêmes participer. Un autre lieu théâtral est le théâtre des Inns of Court, c'est-à-dire des collèges de droit, le théâtre aussi à Oxford et Cambridge, des universités, parallèle à ce que l'on connaît dans l'Europe catholique avec le théâtre des collèges, et en particulier des collèges jésuites. Et puis, il y a, plus important en termes d'impact sur le public, la représentation dans ces « private halls », ces théâtres privés, que, comme je le disais, ne sont pas plus ou pas moins privés que les autres, mais qui ont la caractéristique d'être des espaces fermés, souvent donc réutilisant de grandes salles à l'intérieur des couvents qui ont été sécularisés par la Réforme. Tous les spectateurs sont assis, les prix d'entrée sont évidemment beaucoup plus élevés, le public est plus élitaire, on y trouve fondamentalement soit des étudiants, à Londres, les étudiants des écoles de droit, les jeunes nobles, souvent caractérisés comme gallants dans les pièces elles-mêmes, l'aristocratie, et comme sur les théâtres en France, on a non seulement les spectateurs assis dans les loges, assis dans ce qui est l'équivalent du parterre, mais aussi certains sur la scène même, avec leur siège placé sur la scène. Et un lien... Alors donc là, on a affaire aussi à un théâtre qui va permettre une présence plus forte des chants et de la musique, un soin plus précis dans les décors, un éclairage, même si c'est dans la journée, qui est assuré par des chandelles et qui donc permet aussi des effets de position entre le clair et l'obscur, différents du grand amphithéâtre public où tout se passe en plein jour. Et ces caractéristiques, en particulier pour la présence dans les représentations et donc dans les pièces elles-mêmes de chant et de musique, va être accentuée par le fait, comme je le disais, que la plus fameuse des salles de ce type, à Londres, la salle des Blackfriars, d'abord entre 1577 et 84, puis entre 1600 et 1608, va être donnée pour les représentations assurées par des troupes d'enfants, la Chapelle Royale et aussi les Children of St. Paul, les enfants de la cathédrale. Et quelle est l'origine de ces troupes d'enfants? Ce sont les manécanteries, c'est-à-dire des chœurs d'enfants qui chantaient lors des cérémonies religieuses et qui donc, transformés en comédiens, gardent quelque chose de leur compétence première, c'est-à-dire d'être des chanteurs. Et donc, du coup, dans les private halls et dans le répertoire qui est joué, sont inscrites de très nombreux interludes ou intermèdes musicaux chanter ou même des fragments de concerts, c'est-à-dire de pures partitions musicales. Et donc c'est un lien qui s'est établi là entre les troupes d'enfants et leurs caractéristiques spécifiques et la scénographie des lieux à l'intérieur des private halls. Mais les Blackfriars ne sont pas les seuls. Il y a aussi, à partir de 1616, Cockpit, ou bien à partir de 1629, Salisbury Court. Donc, il y a une dualité, une compétition, en particulier dans toute cette période 1600-1608, c'est la période du malcontent, et on retrouverait une allusion dans cette compétition qui va donner lieu d'ailleurs à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, à une véritable guerre des théâtres entre les troupes qui jouent dans les public amphitheaters et les compagnies d'enfants qui jouent et chantent dans les private halls. Il y a un écho de cela dans Hamlet, lorsque les comédiens de la ville, The Tragedians of the City, viennent à Elsinore au palais d'Hamlet, et la question est, mais pourquoi est-ce qu'ils sont devenus itinérants? Et la réponse que fait Horatio est de dire qu'ils ont été chassés de la ville par le succès des troupes d'enfants, et qu'ils sont donc entrés dans une carrière de troupes ambulantes, itinérantes, qui présentent les pièces dans différentes maisons aristocratiques, dans ce cas-là, le château d'Elsinore pour le roi de Danemark. Mais en même temps, en 1608, comme je l'ai dit, la troupe de Shakespeare, The King's Men, va s'emparer du Blackfriars, et donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est la même troupe qui peut jouer dans un lieu et dans l'autre, et qui peut jouer parfois les mêmes pièces, mais évidemment différemment. On trouverait là un thème à la Molière sur le rapport entre jouer à la cour et jouer à la ville. Mais ici, ce n'est pas la cour et la ville, c'est jouer dans deux types de lieux théâtraux différents. Alors, je vais revenir, et pour en finir avec cela, au texte de Marston dans Malcontent, dans la mesure où l'une des additions qui a été faite par Webster à la pièce qui existait déjà a été un prologue, une Induction for the Globe Theatre, c'est-à-dire un texte spécialement écrit pour les représentations dans le Théâtre du Globe, alors même que, comme je l'ai dit, la pièce a d'abord connu une première carrière, jouée par les Children of the Chapel Royal, the Royal Chapel, au Blackfriars. Et c'est un texte très intéressant dans la mesure où il met en scène, dans la pièce elle-même, la troupe du Globe. Ce prologue commence avec l'apparition d'un jeune galant, d'un de ces jeunes aristocrates, qui est joué par un, évidemment, des comédiens de la troupe du Globe, qui s'appelle Sly. Et l'induction, tout le prologue est lié à cette idée d'une pièce qui est passée d'un lieu à un autre, d'une compagnie à une autre. Et je vais juste commencer ça, puis on va faire une petite pause et on pourra reprendre ensuite. Le premier dialogue est entre un des assistants, une des personnes qui travaillent dans le théâtre du Globe, c'est l'entrée de Will Sly comme un jeune aristocrate qui est suivi d'un de ses serviteurs qui tient un tabouret. L'insistant. Monsieur, les gentilshommes vont se fâcher si vous vous asseyez là, parce que Sly veut s'asseoir sur la scène même. Pourquoi ? Dans les théâtres privés, on a droit de s'asseoir sur la scène. Ne me prendrais-tu pas pour un gentilhomme de la campagne ? Crois-tu que je craigne d'être sifflé ? Je parie que tu m'as pris pour un des acteurs. Non, monsieur, un jeu, puisqu'évidemment c'est un des acteurs qui joue ce personnage, qui dit qu'il ne voudra pas être pris pour un des acteurs. Et Sly ajoute, « Pardieu, si c'était le cas, je ne t'aurais donné que 6 deniers pour ton tabouret. Que ceux qui portent des habits démodés s'assoient dans les galeries. Me siffler, celui qui craint les moqueries au point de quitter la taverne ou l'auberge n'est que rarement rassasié ou saoul en bonne compagnie. Où sont Harry Condell, Dick Burbage et Will Sly ? Laisse-moi parler à certains d'entre eux. Si vous voulez bien entrer, monsieur, vous le pourrez. Je te dis que non, j'ai vu cette pièce tant de fois que je peux leur dire de quoi il retourne. J'ai noté la plupart des plaisanteries dans mes tablettes. Alors je termine cette première partie du cours aujourd'hui avec le commentaire de ce passage. En fait, cet assistant est bien un employé du théâtre, mais que Sly considère comme son domestique et lui fait porter le tabouret sur lequel il voudrait s'asseoir en montant sur la scène elle-même. Alors on voit ici des traits intéressants captés par Webster, c'est-à-dire que effectivement la différence entre le lieu où les gentilshommes peuvent être assis au Blackfriars sur la scène elle-même et au Globe dans des galeries, comme je le disais, alors que la majorité, la masse des spectateurs est debout sur le yard, comme une sorte de parterre. D'autre part, on voit qu'il cite trois des acteurs les plus importants et les plus fameux de la troupe des comédiens du roi. Candle, qui était aussi un des propriétaires, puisque la structure des compagnies est que les principaux acteurs sont en même temps ceux qui tiennent des parts du capital de la compagnie. C'est pour ça qu'on les appelle shareholders. Ils ont des parts. Et ils se répartissent évidemment les bénéfices au prorata des parts qu'ils ont dans le capital, qui est celui de la compagnie. Et Condell est fameux puisqu'il est un des deux éditeurs, au sens de editors, qui a établi les textes pour le folio de 1623, des œuvres de Shakespeare. L'autre est le grand acteur du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire Burbage, qui joue dans la pièce « Malevole », le duc de Gênes de retour pour observer sa cour, mais c'est lui qui jouait Hamlet, le roi Lear, Othello. Et le troisième, Sly, et c'est le jeu, puisque c'est Sly jouant le jeune galant qui demande à parler à Sly, l'acteur, le comédien de la troupe. Et le dernier trait que je voudrais retenir dans cette entrée du prologue, c'est le fait qu'il le dit, j'ai déjà vu tant de fois la pièce que je peux leur dire de quoi il retourne. Donc il l'a vu jouer au Blackfriars, qui est un lieu plus normal d'assistance pour sa condition sociale. J'ai noté la plupart des plaisanteries dans mes tablettes. Le texte étant ici, I have most of the jests here in my table book. Et c'est un tout petit trait, mais intéressant, parce que d'un côté, on voit qu'il y a une forme de satire par rapport aux gentilshommes qui croient pertinent de noter des plaisanteries, de jests, c'est-à-dire la partie la plus basse, la plus commune, la plus populaire des textes, qui soit étaient des plaisanteries à l'intérieur même du texte proposé par le dramaturge, soit des plaisanteries ajoutées par certains acteurs, en particulier ceux qui jouaient les rôles des clowns et qui avaient tout un répertoire de plaisanteries. Dans le premier quarto de Hamlet, il y a la même allusion au fait que les gentilshommes prennent en note dans leurs table books ces plaisanteries qui sont souvent des improvisations, codées certes, mais des improvisations de clowns à l'intérieur du texte qui ne les portait pas. Ce qui met Hamlet tout à fait fâché dans la mesure où il pense et il annonce que les acteurs ne doivent jouer que ce qui est écrit. Et d'autre part, la nature du table book, ça nous avait beaucoup retenu avec mon collègue Peter Stalybras, puisqu'ici, évidemment, cela veut dire que ce jeune galant joué par Sly, aurait, dans la fiction, noté sur son table book, entendu comme carnet de notes qui peut être mis dans la poche, un certain nombre des plaisanteries qu'il a entendues sur la scène. L'argument que l'on a pu pousser, c'est quant à l'identification de ces table books dans le monde anglais du XVIIe siècle, qui ne sont pas nécessairement des carnets de notes ordinaires, mais qui peuvent être aussi ce que l'on appelle « writing tables », c'est-à-dire des carnets sur lesquels les pages ont reçu, dans lesquels les pages ont reçu comme une mince pellicule de plâtre et de vernis, et qui permet du coup d'avoir une surface sur laquelle il est possible d'écrire et d'effacer, puis de réécrire. Et donc, le fait qu'il pourrait être lié à cette scène de théâtre où quelqu'un prend des notes à la volée, pendant la représentation, se joint assez étroitement avec ses writing tables, puisque d'une part, il est possible d'y écrire sans encre ni plume, ce qui serait déjà un peu plus compliqué dans une écriture d'immédiateté, puisqu'il faut un encrier, il faut des plumes, il faut des couteaux pour les effiler, alors que sur cette surface, cet enduit très mince, pellicule, des writing tables, on peut écrire avec un stylet. Et d'autre part, évidemment, cela permet la correction immédiate, puisqu'il suffit d'effacer avec sa salive ce qui a écrit pour réutiliser la même surface. Vous voyez, juste un exemple pour vous montrer que parfois des textes qui peuvent paraître anodins ou sans mériter un commentaire particulier, en fait, permettent d'avoir une très grande profondeur de compréhension, à condition évidemment de mobiliser un certain nombre d'éléments interprétatifs qui appartiennent à un savoir historique qui n'est pas nécessairement uniquement situé à l'intérieur du commentaire esthétique, poétique ou dramaturgique du texte. Alors on peut peut-être faire 5 minutes de pause et puis je reprendrai, terminer l'analyse de l'induction écrite par Webster pour la pièce de Marston, parce que là encore, avec la même démarche, on peut en extraire des éléments de compréhension qui débordent de beaucoup ce fragment textuel. Donc on peut reprendre à 11h10, puisque je vois qu'il est écrit 11h06 ici.